Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet et Jean-Noël Lucas pour vous accompagner au cours de cette heure en français donc. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de sport, d'économie et nous parlerons d'un livre qui sera présenté ce soir à l'Alliance française de Sydney. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les adolescents entre 16 et 17 ans peuvent désormais maintenant bien recevoir le rappel du vaccin contre le Covid-19. Le ministre des Services aux Soins des Personnes Âgées, Richard Colbeck, défend sa décision d'assister au cricket au lieu d'être sur une enquête parlementaire contre le Covid. Et on a retrouvé, c'est confirmé, retrouvé le bateau du capitaine Cook au large des États-Unis. Je viens de vous le dire en titre, les adolescents âgés entre 16 et 17 ans en Australie peuvent désormais recevoir le rappel du vaccin Pfizer. Le groupe consultatif technique australien sur la vaccination, on le connaît sous le nom de ATAGI, a recommandé une injection de rappel donc pour ce groupe d'âge avec un intervalle de 3 mois entre la deuxième et la troisième dose du vaccin. Près de 90% des jeunes de 16 à 17 ans sont entièrement vaccinés et les deux tiers de ce groupe d'âge sont donc éligibles au rappel. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt se dit satisfait de l'approbation alors que les élèves de tout le pays retournent à l'école cette semaine. Le ministre des Services aux Personnes Âgées, Richard Colbeck, a défendu sa décision d'assister au test de cricket des Ashes à Hobart au lieu d'être sur une enquête parlementaire contre le Covid. Il a également nié que le secteur soit en crise malgré des milliers de cas dans les établissements résidentiels, des pénuries généralisées de personnel et 471 décès dans les soins donc aux personnes âgées cette année, le sénateur Colbeck dit qu'il serait qu'il ne sait pas combien de décès étaient liés aux personnes qui n'avaient reçu ou pas leur dose de rappel. Et lorsqu'il a été pressé sur sa participation au cricket, M. Colbeck a déclaré qu'il maintenait sa décision. On l'écoute.
The test match in Hobart was a significant event for Tasmania. Obviously, as Minister for Sport as well as Minister for Aged Care Services and Senior Australians, I had to be conscious of that. I made a judgment call. I have no option but to stand by that and take the criticism that comes from it.
Donc sur le point du virus, la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 38 décès du Covid et 12 632 nouveaux cas. Il y a actuellement 2 578 personnes hospitalisées avec le virus, dont 160 en soins intensifs. Dans le Victoria, on enregistre 34 décès pour le Covid et 12 157 nouveaux cas. 752 personnes sont hospitalisées avec le virus. Il y a 82 patients en soins intensifs. Selon l'administrateur en chef général de la santé, le professeur Paul Kelly, qui a déclaré lors d'une audition parlementaire d'ailleurs, que 71% de toutes les personnes décédées du Covid jusqu'en octobre de l'année dernière luttaient également contre des problèmes de santé préexistants. Le professeur Kelly dit que l'analyse a été effectuée sur des données jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021 et n'inclut donc pas les décès attribués à l'épidémie d'Omicron à la fin de l'année dernière et en tout début de cette année. On l'écoute.
What I can say is the most common comorbidity was diabetes, and the second most common was obesity, and heart disease and lung disease, chronic lung disease, were also high on the list of underlying causes in that group. So that was the first 1,600 just over 1,600 deaths in the pandemic to that date.
Voilà donc Paul Kelly, l'administrateur en chef fédéral de la santé. Les historiens ont confirmé qu'un navire qui était échoué dans le port de Newport aux États-Unis était bien le HMB Endeavour utilisé par l'explorateur britannique James Cook. James Cook a navigué sur son navire autour du Pacifique Sud avant d'atterrir sur les côtes australiennes en 1770. L'Endeavour a été sabordé dans le port de Newport vers Rhode Island par les Britanniques il y a 244 ans et avait été oublié pendant plus de deux siècles. Le directeur général de l'Australian National Maritime Museum, Kevin Supton, a déclaré que la confirmation du navire met fin à 22 ans de travail par les archéologues maritimes et les historiens. On l'écoute.
It's arguably one of the most important vessels in Australia's maritime history. And yes, the Australian National Maritime Museum, together with our partners RIMAP, have found the wreck of Cook's Endeavour.
13h05, une tentative de coup d'État a eu lieu en Guinée-Bissau. Des hommes armés ont tenté de renverser le pouvoir en place en attaquant le palais du gouvernement lors d'un conseil des ministres extraordinaire, tentative qui semble avoir échoué avec un bilan assez lourd. François Mazet.
Oui, 11 morts dont 4 civils, c'est le bilan donné tout à l'heure à la presse par Fernando Vache, le ministre du Tourisme et porte-parole du gouvernement. Au cours d'une conférence de presse, il a dénoncé, je cite, une attaque violente et barbare visant à décapiter l'État bissau-guinéen. Contrairement à ce qui était espéré, il n'a pas donné de détails supplémentaires. Il a parlé d'un acte planifié avec rigueur, perpétré par des gens animés par des intentions inavouées, avec l'appui de personnes ayant des capacités financières. Les enquêtes du renseignement militaire ont commencé leurs investigations. Aujourd'hui, elles permettront peut-être de répondre à certaines questions, notamment l'identité des assaillants. Le chef de l'État a assuré dès hier soir que des arrestations avaient eu lieu, mais on ne sait pas combien ni qui est concerné. Il a également affirmé que ces événements faisaient suite aux décisions qu'il avait prises contre la corruption et le narcotrafic, mais sans citer de commanditaires potentiels. Côté politique, les partis qui composent la coalition gouvernementale ont condamné une tentative de coup de force, de même que la communauté internationale. En revanche, le PAIGC, la principale formation du pays, mais qui se trouve dans l'opposition, a qualifié les explications d'Oumaro Sissoko Embalo de simplistes et demandé une enquête crédible afin d'établir les faits et les responsabilités dans cette affaire.
C'était François Mazet pour RFI. Les États-Unis enverront des milliers de soldats en Europe en prévision d'une éventuelle invasion militaire russe de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden repartira 2000 soldats à travers la Pologne et l'Allemagne et déplacera environ 1000 autres soldats de l'Allemagne vers la Roumanie. Le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a annoncé bien que ces mesures étaient nécessaires, affirmant que les forces américaines n'entreront pas par contre elles-mêmes en Ukraine.
These are not permanent moves. They are moves designed to respond to the current security environment. Moreover, these forces are not going to fight in Ukraine. They're going to ensure the robust defense of our NATO allies.
C'était John Kirby, donc le porte-parole de la Maison-Blanche. La Russie, qui ne communique pas, reste très certainement dans le flou quant à son intention avec l'Ukraine. Par contre, la Russie, qui communique énormément sur sa relation avec la Chine, pays affiché comme ami, surtout au moment du début de ces Jeux Olympiques. Le point donc sur la situation ukrainienne, russo-chinoise, USA, Europe, avec Anissa El-Jabri.
Ni l'OTAN ni le Kremlin n'ont voulu faire de commentaires sur les fuites, ce n'est pas une première, mais l'usage en diplomatie, ne pas rendre public les échanges écrits, est désormais bien rompu. Sur le fond, pas de surprise, les propositions occidentales sont de deux ordres, des mesures de contrôle des armes, des mesures de rétablissement de la confiance. L'OTAN comme les États-Unis ont bien écarté la demande principale de Moscou, le refus de tout élargissement de l'OTAN. Dialogue de sourds toujours, mais si Vladimir Poutine a laissé mardi la porte ouverte à d'autres discussions. Il entend aussi montrer de façon éclatante qu'il n'est pas seul. Prochain rendez-vous ce vendredi, lors de l'ouverture des JO de Pékin, le Kremlin annonce un soutien clair de la Chine à ses exigences avec, je cite, une déclaration commune sur l'entrée des relations internationales dans une nouvelle ère, notamment sur les questions de sécurité, affichage de proximité, message de Moscou à Washington, pas de tête-à-tête américain ou chinois, la Russie ne veut pas rester sur le banc de touche.
C'était Anissa El-Jabri pour RFI. 13h09, retour en Australie. Le gouvernement fédéral annonce qu'il investira 750 000 dollars dans le lancement d'un musée sur l'Holocauste à Darwin. Le projet est de rendre hommage donc à plus de 6 millions de juifs qui sont morts aux mains des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg a déclaré que le financement faisait partie de l'engagement du gouvernement à soutenir la sensibilisation à l'Holocauste, en particulier chez les jeunes. En Australie, on l'écoute.
But this is our duty. This is above politics. This is about the past, the present, but most importantly of all, it's about the future. This is a small investment which hopefully will produce a very, very big gain.
Josh Frydenberg. Au moins 24 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées ou portées disparues à la suite d'un glissement de terrain dans la capitale équatorienne Quito. Il a été causé ce glissement de terrain par des précipitations records sur les plantes du volcan Pichincha qui donc a fait céder des collines en contrebas. Un nettoyage massif est en cours alors que les efforts se poursuivent pour retrouver des survivants. On écoute cette femme équatorienne, Magdalena Maya, qui est à la recherche d'un parent disparu.
We're waiting here. We see that they're still removing corpses from there. We want them to let us see the bodies, to identify our relatives.
Voilà donc pour la situation à Quito. 13h11, un professeur américain de droit LGBT a vu son visa annulé à son arrivée à Hong Kong, sans avertissement. Le professeur donnait des cours depuis des années par internet et avait été autorisé à venir enseigner sur Hong Kong, mais donc à son arrivée a été refusée à l'entrée. Tout simplement, son visa a été donc annulé. L'ONG Human Rights Watch y voit la mainmise de la Chine continentale sur Hong Kong. On écoute Sophie Richards.
On a affaire ici à une mainmise politique des autorités continentales sur les universités de Hong Kong. Cette continentalisation est particulièrement tragique lorsque l'on sait à quel point le monde universitaire n'a pas seulement joué un rôle essentiel dans la vie civique de l'île, mais a constitué un bastion formidable de liberté académique et de liberté d'expression. Il est évident que les pressions se sont accentuées depuis les manifestations de 2019 et surtout depuis l'adoption de la loi sur la sécurité nationale. Les enseignants nous rapportent les interrogatoires auxquels ils sont soumis concernant le contenu de leurs cours ou les discussions qu'ils ont avec leurs élèves en classe, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Les universités de Hong Kong ressemblent de plus en plus aux universités de la Chine continentale et je trouve inadmissible que les universités de référence mondiale ne disent pas un mot sur ce qui se passe à Hong Kong.
Coup d'œil météo en cette fin de journal. Donc pour aujourd'hui, pour cet après-midi, à Perth, il fera 37 degrés, Adélaïde 24, Melbourne 21, Hobart 17, Canberra 23 degrés, à Sydney vous aurez 24 degrés, Brisbane 27, Cairns 33 et Darwin 30 degrés. Des rappels des grands titres de l'actualité. Donc pour aujourd'hui, les adolescents entre 16 et 17 ans peuvent maintenant désormais recevoir le rappel du vaccin Pfizer contre le Covid-19. Le ministre des services de soins aux personnes âgées, on l'a vu dans ce journal, Richard Colbeck, défend sa décision d'assister au cricket au lieu de participer à une enquête parlementaire sur le Covid. Et également dans ce journal, le bateau du capitaine Cook identifié au large des côtes américaines. Voilà, 13h13, courte pause et on se retrouve pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, la première demi-finale de la CAN hier, mercredi. Et comme en 2019, le Sénégal va en finale après sa victoire contre le Burkina Faso, 3-1. Retour sur la victoire des Lions du Sénégal avec cet extrait de l'émission Radio Foot International.
Bounassar va tirer ce corner de la gauche, corner sortant, la tête sénégalaise, non, parvient à se retourner, le but sénégalais qui est venu placer Abdou Diallo, coup de tonnerre dans le ciel de Yaoundé, c'est Abdou Diallo, le Sénégal prend l'avantage et une option sur la finale. Sadio Mané, il est passé côté gauche face à Ouédraogo, le centre de la but, le but sénégalais, le deuxième but sénégalais, Idrissa Gueye.
gars, 100% PSG ce soir.
Caboret, il a bien fixé, il a bien servi. Caboret, le centre de la
cible. Ah oui,
c'est le but. La réduction du score. Gustavo Sangaré qui vient couper la trajectoire de ce superbe centre d'Issa Caboret. Attention à ce contre éclair. Il déboule à toute allure. Sadio Mané face à Ouédraogo. Le troisième but. Le troisième but du Sénégal. Sadio Mané. Il n'en valait pas plus. C'est en front pour le joueur de Liverpool, la vedette de la tanière qui vient crucifier les étalons et Ouédraogo.
Trois buts pour le Sénégal, un seul pour le Burkina Faso.
Ce jeudi, l'autre demi-finale, le Cameroun contre l'Égypte. Les Lions indomptables seront portés par leurs deux buteurs, Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi. Mais les yeux seront braqués sur Eric Maxime Choupo-Moting. Hugo Moissonnier, RFI.
Est-ce sa crête, sa grande carcasse, son accent allemand ou encore sa carrière improbable? Toujours est-il que le chouchou, c'est Choupeau, dans les rues de Yaoundé comme de Douala.
Il joue un grand rôle dans l'équipe. Il encadre ses cadets qui sont là, qui font mieux. Ça fait partie de son aura, de son charisme. Partout il est passé. Il ne fait pas très bien, mais il est aimé.
Je ne fais pas trop attention à ça, mais...
Éric Maxime Choupo-Moting, lui-même.
Chaque joueur a besoin du support et de savoir que le peuple est content. Oui, c'est un honneur de jouer devant le peuple, surtout ici à la maison. Surtout quand on joue bien dans ce pays, c'est quelque chose de spécial.
Choupo-Moting, 32 ans, ravi quand son équipe joue bien, alors que lui joue peu. Deux titularisations dans cette CAN, un rôle de remplaçant qui ne se plaint jamais dans les grands clubs. Aujourd'hui le Bayern, hier le PSG. Choupo, c'est pourtant un joueur d'occasion manquée. Refus de participer à la CAN 2017 pour un titre de champion d'Afrique raté. Et devant le but, il peut le pire comme le meilleur.
Au PSG, j'ai deux images qui me reviennent en tête.
Adrien Chantegrelet, journaliste au Parisien.
C'est le raté face à Strasbourg qui a fait le tour du monde. Et évidemment, son but face à l'Atalanta, cette maladresse qui prouve un peu que voilà, d'une certaine manière, il avait... pas forcément le standing et puis de l'autre côté cette trace en interne de quelqu'un voilà qui a été très apprécié puis c'est quelqu'un qui donnait tout.
Le foot en Europe, la Ligue 1 en France, mardi avec Lyon qui a battu Marseille 2-1 dans un match de la 14e journée. Tom Rossi, RFI.
14e journée de Ligue 1, rejouée après le jet de bouteille sur Payet en novembre. Et victoire de l'OL, 2-1, malgré l'ouverture du score de Guendouzi en début de match. Changement tactique à la pause, Lyon s'enhardit, égalise sur une tête de Shaqiri et prend les devants à la 89e minute grâce à Dembélé. Troisième victoire de suite pour les Lyonnais. Et occasion manquée de prendre la deuxième place pour l'OM de Valentin Rongier.
Il y a eu un ajustement tactique de la part des Lyonnais. On n'a pas réussi à s'adapter assez rapidement. Ça nous a mis en difficulté et on a trop reculé sûrement. Donc voilà, on est très très déçus. On travaille sérieusement depuis le début de la saison. Je pense que voilà, on peut pas tout oublier sur un match. Même si on aurait pu mieux faire aujourd'hui. Mais on va voir ce qui n'a pas été parce que forcément il y a eu des manquements aujourd'hui.
Retour sur la défaite de Paris pour la Coupe de France. C'était lundi soir avec Marie-Amélie Motte pour RFI.
Le PSG, tenant du titre 14 fois vainqueur de la Coupe de France, sorti de la compétition hier soir. Après un match disputé, Paris a buté sur Nice 0-0 comme en championnat il y a deux mois. Et c'est un ancien Parisien qui a éliminé le PSG. Le gardien polonais Marcin Bulka a prêté par Paris à Nice. Deux arrêts hier lors de la séance de tir au but. Après le trophée des champions, un nouveau titre potentiel s'envole pour les Parisiens. Mais le défenseur Presnel Kimpembe n'était pas défaitiste à la sortie du terrain. On l'écoute.
Il nous a juste manqué le petit but pour gagner ce match. On a fait un bon match. Toute l'équipe était concernée. On a eu des opportunités. On n'a pas su mettre le but qu'il fallait, mais on fait quand même un bon match avec beaucoup de qualité. Bien sûr que c'est une déception. On veut tout gagner. On veut être en course dans toutes les compétitions. Malheureusement, ce soir, voilà, on se fait éliminer au tir au but, mais on retiendra quand même le bon match ce soir.
Et Paris qui va devoir se remobiliser avant un déplacement chez le champion en titre lillois ce week-end.
Les Socceroos ont fait match nul, 2-2 contre Oman, ce qui réduit les espoirs de qualification automatique pour la Coupe du Monde pour les Australiens. Le tirage au sort signifie que l'Australie doit vaincre le Japon à Sydney le 24 mars prochain pour éviter d'atteindre le Qatar via les éliminatoires. Les Matildas, l'équipe féminine australienne de foot, perd ses chances de remporter la Coupe d'Asie après sa défaite face à la Corée du Sud, 1-0. À seulement 18 mois de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, la pression monte et l'entraîneur Tony Gustafsson déclare qu'il savait déjà que le match contre les Coréennes allait être serré. Les JO d'hiver de 2022, c'est du 4 au 20 février en Chine. Les organisateurs des Jeux affirment que l'augmentation des cas de Covid-19 aux Jeux se situe dans une fourchette contrôlable pour l'instant. Le comité organisateur a enregistré 200 infections dues au coronavirus depuis le 23 janvier dernier. Le directeur général des médias et des communications pour les Jeux, Zhao Weidong, a déclaré que la santé et la sécurité de tous les participants sont la priorité absolue.
Of course, COVID countermeasures are still on top of our agenda. We've been taking effective measures and everything's under control. Without a safe games, there would be no games. So we will make sure that the health and safety of all of our participants is our top priority.
Un mot de rugby, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu cette année, non pas sur le continent africain, mais en France, comme nous l'explique Yoran Meloul, qui se trouve à Marseille pour RFI.
Pour Khaled Babou, le président de Rugby Afrique, cette coupe va permettre de valoriser le rugby africain un an avant la Coupe du Monde.
C'est un accélérateur d'image pour nous. Tous les joueurs veulent venir jouer ici en France. N'oubliez pas que c'est le moteur économique du rugby mondial, le championnat de France. Donc c'est une occasion unique aussi à ces joueurs d'être encore plus près du centre mondial du rugby.
Une vision partagée par Claude Haché, le directeur du comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023.
On va s'apercevoir, quand on va voir ces équipes en compétition en France, que leur niveau sportif est beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait l'imaginer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça va permettre à ces équipes de prendre un peu de lumière en matière de compétition internationale, de pouvoir à la fois valoriser leurs prestations vis-à-vis de leur propre pouvoir politique, de pouvoir pourquoi pas trouver des sponsors, parce que c'est aussi une façon de se montrer aux yeux du monde du rugby, et puis de jouer cette compétition dans des conditions d'accueil et d'organisation qui seront celles de la Coupe du Monde 2023.
Les matchs vont se dérouler du 1er au 10 juillet avec pour le vainqueur une place réservée dans le groupe de la France et des All Blacks à la prochaine Coupe du Monde.
Et puis la légende australienne du basketball, Lauren Jackson, annonce son retour dans le sport 6 ans après avoir pris sa retraite en raison d'une blessure chronique au genou. À 40 ans, elle signe avec le club de sa ville natale, Albury Wodonga, pour la saison NBL 1 cette année. Et elle aura la chance de jouer dans un stade qui porte son nom. Son retour au basket intervient à quelques mois avant la Coupe du Monde FIBA à Sydney en septembre prochain, ce qui signifie qu'elle pourrait ajouter une autre médaille d'or à son palmarès lors de ses championnats du monde. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé. Sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée, je chante un baiser.
C'était Alain Souchon avec cette chanson Un baiser. Il est 13h27. On fait une courte pause et on parle d'économie dans quelques instants.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
La Banque centrale met fin à l'achat des obligations chaque semaine. Est-ce un bon signe pour l'économie?
Eh bien oui, tout simplement, oui, c'est un bon signe. Ça fait assez longtemps là, que la Banque centrale achète des obligations, en fait 4 milliards chaque semaine. C'était un plan qui a été introduit avec la pandémie pour acheter en total 350 milliards d'obligations du gouvernement fédéral et des États aussi. Mais là, ils disent qu'ils vont arrêter de faire ça le 10 février. La semaine prochaine, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que les mesures de l'économie et de l'inflation ont l'air plutôt bons. Donc déjà la Banque centrale avait prévu d'arrêter d'acheter des obligations en mai, mais là ils vont agir plus tôt que prévu parce que on voit que le taux de chômage et d'inflation, le taux de chômage baisse et le taux d'inflation monte un petit peu. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais le gouverneur de la Banque centrale a quand même dit qu'il ne faut pas attendre d'avoir le taux d'intérêt monter tout d'un coup. Il reste toujours à 0,1%, le plus bas qu'on a jamais vu. Il dit que ça ne va pas être tout de suite que ça va commencer à monter, mais quand même, les gens pensent que la Banque centrale va agir sur les taux d'intérêt un peu plus tard cette année, peut-être en août. Ce serait la première fois depuis novembre 2010, donc elle est assez extraordinaire. On voit que il y a d'autres choses qui se passent. Donc les salaires ne montent pas beaucoup, ils restent assez plats depuis très longtemps aussi. Mais aussi on voit que la Banque centrale vraiment est contente d'attendre pour le moment pour voir comment ça se développe économiquement avant d'agir plus rapidement sur les taux d'intérêt. Donc déjà, ils vont arrêter d'acheter des obligations, ce qui était une façon de stimuler l'économie, parce qu'ils pensent que l'économie est assez stimulée et commence maintenant à bouger tout seul avec le taux de chômage qui baisse, le taux d'inflation qui monte. Mais il y a d'autres facteurs, il y a d'autres choses à voir comment ça va évoluer encore. Donc on peut dire qu'il y a des bons signes quand même.
Et puis encore une mauvaise nouvelle pour Rio Tinto, la compagnie minière.
Oui, tout à fait. Donc Rio Tinto, on en avait parlé puisque ils avaient fait la une quand ils avaient détruit un site indigène très important, le Juukan Gorge. Et là, ils ont annoncé les résultats d'une étude, d'un rapport indépendant sur la culture dans la compagnie. C'était une compagnie minière et ils ont trouvé que l'harcèlement sexuel, l'harcèlement général et le racisme étaient à plein fond partout dans les opérations de cette compagnie, non seulement sur les sites mais autour du monde, dans ces opérations autour du monde. C'est un rapport de 85 pages où ils ont parlé avec 10 000 employés mais d'une façon anonyme, et donc ils ont trouvé que ces façons de se comporter ont été non seulement tolérées par la compagnie mais normalisées. Ils ont trouvé qu'il y a eu 21 femmes qui ont dit que soit ils ont été violés, ou il y a eu des attentats de viol ou d'assaut sexuel pendant les 5 dernières années. Et 40% de toutes les femmes qui travaillent sur les sites de Fly In, Fly Out de Rio Tinto ont dit qu'elles ont été harcelées sexuellement. En plus, le racisme, donc presque 40% de tous les employés aborigènes ont dit qu'ils ont expérimenté du racisme dans les dernières 5 années. Donc, des résultats absolument catastrophiques. Et Rio Tinto dit que c'est honteux, qu'ils ont promis de changer ça, de changer la façon dont ils vont agir et répondre à des gens quand ils viennent pour leur dire qu'il y a eu de l'harcèlement ou du racisme. Ils ont promis de faire mieux. C'est pas tout à fait clair ce qu'ils vont faire encore, mais c'est une énorme compagnie et ils n'auraient pas pu trouver des résultats pires que ça, vraiment. Donc, des questions maintenant sur les autres compagnies minières. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a cet harcèlement sexuel? Est-ce qu'il y a ce racisme dans cette industrie qui est tellement clé et tellement importante pour l'économie australienne, bien sûr?
Merci Nicolas pour cette analyse. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french. Thank you.
Quelle belle reprise, hein. Laisse tomber les filles, c'est par Odette, et bien c'est aussi le moment de vous rappeler qu'il y a So Frenchy So Chic qui arrive. On aime toujours bien ce moment à SBS, So Frenchy So Chic. Le concert de So Frenchy So Chic, c'est le 14 février de mémoire, je crois, pour Melbourne. En tout cas, 13h37, courte pause, et on parle d'un livre qui sera présenté ce soir à Sydney, à l'Alliance Française de Sydney, tout de suite après ça.
Eh bien, le plaisir d'avoir sur SBS French à nouveau Ruby Boukabou. Bonjour et bienvenue à nouveau.
Merci, bonjour.
Et une très belle année 2022 à vous.
Et à vous aussi, ça a commencé bien.
Absolument.
J'espère pour vous.
Et Ruby, la dernière fois, quand on vous a eu sur les ondes de SBS French, on a beaucoup parlé de vos deux livres, The Art Lover's Guide to Paris and The Architecture's Lover's Guide to Paris. Et cette fois, vous êtes l'invité spécial de l'Alliance française de Sydney. C'est ce jeudi 3 février. Et vous avez parlé de vos livres. C'est un Q&A.
Oui. Oui. C'est l'occasion de fêter tous les deux livres. Donc, Art Lover's Guide to Paris and The Architecture Lover's Guide to Paris. Et c'est une occasion pour parler de tous les deux livres et aussi rencontrer un petit peu le public de l'Alliance française Sydney. Et là, la nouvelle directrice Valérie, qui est superbe. Du coup, j'ai organisé avec elle, avec Chloé Gunn. Et on va discuter là, l'architecture en général. Et puis, je vais faire un petit tour parce que dans le Architecture Lover's Guide to Paris, il y a 5 walking tours. Du coup, je vais amener le public dans un de ces tours avec Google Earth. Du coup, on va faire une petite promenade à Paris, à Sydney. Après la dédicace, oui, je pense que ça va être très sympa. C'est jeudi le 3 février, Alliance française Sydney. Et je pense qu'il n'y a pas trop de place avec les restrictions. Du coup, les gens doivent réserver en avance. Je pense que c'est afsydney.com.au.
Oui, voilà, afsydney.com.au. Ce sera un Q&A en anglais ou en français?
Je pense qu'on va faire un peu les deux, parce que le public, c'est les francophones, c'est un peu les deux. Du coup, on va faire en anglais, on va parler un petit peu français quand même, parce que ça va être chouette. Du coup, c'est un petit peu pour tous les publics. Et le livre, c'est en anglais.
Oui.
Tout le deux livres, mais les photos, c'est dans toutes les langues.
Vous êtes aussi reporter, vous êtes aussi interprète, chanteuse, claquettiste. Et le 19 février, vous faites partie de ce spectacle Promenade à Paris. C'est un cabaret show avec Chris Cody et d'autres interprètes.
Oui, du coup, j'ai déjà fait plusieurs concerts à Claire's Kitchen. C'est un endroit très, très chouette à Surrey Hills. On mange très bien les repas français. Et puis, on a un petit spectacle. Du coup, j'ai fait ça déjà avec Courtney Severini et Matt Harris. Je voulais refaire un spectacle et Courtney n'était pas dispo. Du coup, j'ai réfléchi. J'ai pensé que ça va être vraiment chouette de rejouer avec Chris Cody, que je connais de Paris. On se connaît à Paris. Et puis, j'ai cherché une chanteuse. Et puis, j'ai regardé sur mon agenda. Et j'ai dit, ah ouais, Daniela Bada. C'est une autre Australienne qui était aussi à Paris. Et du coup, on fait Daniela. Elle chante. Chris joue le piano, le clavier. Il y a Marc Zetto, un autre contrebassiste qui était dans Monsieur Camembert avant Marc Harris. Et lui, il est formidable. Et moi. Du coup, on a fait la première représentation à Claire's Kitchen la semaine dernière. Et c'était complet, c'était super. On s'amusait, c'était vraiment chouette. C'était vraiment cool. Du coup, on fait un deuxième, le 19, mais c'est à Central Coast, à Yarra Malong. Mm-hmm. C'est un petit bed and breakfast avec un restaurant très chouette qui est 20 minutes de Wyong. Et du coup, le 19, et le 22 mars, on retourne au Clay's Kitchen.
Vous êtes en pleine répétition, j'imagine. Est-ce que vous avez une idée du répertoire des chansons que...
Oui, parce qu'on a déjà fait, on a fait un, du coup, c'est un type, c'est une promenade à Paris avec, on commence dans la Belle Époque à Montmartre et Chris, il est Eric Satie. Et ouais. Moi, je suis un peu le hôte, le guide. Du coup, après, on va dans les années folles, on va aux Folies Bergères pour écouter Josephine Baker, bien sûr. Ensuite, on va chez Maxime. Dans les années 40, ouais. On est pour écouter Que restait-il Charles Trenet et Lucien Boyer.
De mes amours.
Après, c'est Bastille pour écouter Django Reinhardt dans les années 40 aussi. Les années 50, c'est on promène. Oh, bien sûr, on va à Belleville pour écouter Edith Piaf. Mm-hmm. Et. On finit la première partie au Butchemont parce que c'est mon parc préféré à côté de chez moi, ouais. Avec Autumn Leaves, les feuilles mortes. Pour la deuxième partie, on commence avec Friel, qui est le gens connaît moins parce qu'elle était aussi, elle a grandi, elle a chanté dans la rue comme Edith Piaf, mais 44 ans avant Edith. Elle était née en 1881. Du coup, on commence avec elle. Et puis, on fait une promenade sur la Seine dans les années 50. On va au Rive Gauche, les années 60, avec Juliette Gréco et Serge Gainsbourg. Après, moi, j'ai fait une petite impression comme Carla Bruni avec mon ukulélé, par contre, au Palais de l'Élysée. Après, c'est le Moulin Rouge pour Edith Piaf, maintenant elle est connue. Et puis, on passe par le Panthéon pour parler aussi de Josephine Baker, vu qu'elle a monté au Panthéon. Ouais. Et puis, on finit sur une péniche sur la scène. C'est vraiment sympa. On s'amuse, et entre les deux, on discute, on fait les petits... Oui, c'est détendu, c'est cool, les musiciens sont superbes. On s'amuse, j'aime beaucoup ce spectacle.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Voilà, donc plus d'informations sur notre site internet sbs.com.au/French par rapport à donc cette ouverture de livre ce soir, cette présentation de livre ce soir à l'Alliance française de Sydney. 13h56, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour ce 3 février. Pardon. J'ai un petit peu hésité sur la date. Là. Les adolescents de 16 et 17 ans peuvent désormais recevoir le rappel du vaccin de Covid-19. Ça a été annoncé aujourd'hui, le rappel du vaccin Pfizer. Le ministre des services aux soins aux personnes âgées, Richard Colbeck, défend sa décision d'assister au match de cricket des Ashes à Hobart au lieu de participer à une enquête parlementaire sur le Covid-19. Le bateau du capitaine Cook a été identifié au large des côtes américaines 244 ans après avoir disparu. Et dans l'actualité internationale, coup d'État manqué en Guinée-Bissau. Voilà, c'était Benoît Doremus et Clio. Désolé pour les fantômes, cette chanson qui fait partie également de notre sélection musicale pour le mois de février. Une petite minute pour vous souhaiter bien bon après-midi. Vous rappelez notre site internet sbs.com.au/French, notre Facebook facebook.com/sbsfrench et notre Twitter où nous sommes @sbsfrench. Prochain rendez-vous avec notre programme en français, c'est bien entendu samedi à 13h et dimanche à 13h également, et la semaine prochaine, mardi et jeudi à 13h. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table, à samedi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.